question qui est posée, est-ce que tout jugement est un acte volontaire? Le jugement est un acte de l'intelligence. Alors, comme tout acte humain, il faut s'impliquer pour juger. Il faut s'éveiller. Quand vous dormez, vous ne jugez pas. Ça ne pénètre pas. Vous êtes éveillé pour juger. Pour être éveillé, il faut quelquefois faire un acte de volonté. Vous en faites au moins un par jour pour vous réveiller. Et la volonté est là qui soutient notre attention. Pour écouter un cours, il faut un acte volontaire. Être attentif. Pas se laisser prendre à l'imaginaire, au vol des rapaces, au vol de l'aigle. Il faut être attentif. Bon, être attentif, c'est la volonté qui applique notre intelligence pour qu'on écoute, pour qu'on entende. De ce point de vue-là, tout acte de jugement présuppose, je dirais, présuppose un acte volontaire. Et certains actes de jugement vont commander un acte volontaire. Quand cet acte de jugement est d'ordre pratique, je décide de venir au cours. Sortant de la chapelle, vous avez dit ça. Et vous avez pris la route. Oui, si vous l'avez fait peut-être machinalement. C'était prévu. Mais quand même, si entre deux, il y avait quelqu'un qui avait fait un petit signe, elle vient un petit peu par ici. Vous avez dit non, je dois aller au cours. Vous avez dit un acte volontaire, un acte de volonté pour vous impliquer à venir au cours. L'impérium est un jugement pratique qui commande un acte volontaire. Vous voyez ? Donc il y a des jugements. Tout jugement, acte d'intelligence, présuppose un acte volontaire. Et tous les jugements pratiques, normalement, commandent un acte volontaire. Donc ça présuppose et ça commande. C'est enveloppé. Parce que la volonté enveloppe toute ma vie spirituelle. Alors, on m'a demandé ensuite de revenir sur le point de vue de l'activité rationnelle des raisonnements. Et je vous avais dit, il faut bien comprendre les divers raisonnements. Le raisonnement inductif, la grande montée, où il s'agit de passer de l'expérience à la découverte des principes propres. Le raisonnement inductif, c'est l'intelligence qui s'éveille à la recherche des principes propres. Et ça monte verticalement. Passage de l'expérience à la découverte, au dévoilement des principes propres. Et ça se fait grâce à l'interrogation. L'interrogation est un jugement quand j'interroge. Un jugement hypothétique. Est-ce que? Quelle est la cause? Oui, je cherche. Ça m'éveille. Platon dira que l'interrogation met mon intelligence en état d'attente, comme un chien de chasse. Je veux avoir mon gibier. Et je secoue. C'est vrai que quand vous êtes à moitié endormi, vous n'interrogez pas beaucoup. Parce que vous êtes proche de l'idéaliste. Alors, vous n'interrogez pas beaucoup. Puisque l'idéaliste n'interroge plus. Le doux sommeil. On plane. Tandis que quand on est très éveillé, on interroge. Quelqu'un qui interroge, eh bien, il avance. Et l'interrogation magistrale, qu'est-ce que c'est? Le TST, qu'est-ce que c'est? On veut savoir et on secoue. Secouer avant de s'en servir. On secoue pour découvrir par où on peut passer. Et par où on va découvrir une faille. Pour découvrir le principe. Qu'est-ce que c'est? En quoi? D'où? En vue de quoi? Les grandes interrogations. Les cinq grandes interrogations d'Aristote. Cherchez bien, il n'y en a pas d'autres. Il y a le comment. Et comment reste encore une grande interrogation? Le comment de la personne humaine, c'est la plus grande interrogation. Et ensuite, le comment de l'être premier. De la personne première. Donc, l'induction qui est la voie d'invention, de découverte. La perspicacité de l'intelligence, elle interroge. Parce qu'elle veut pénétrer, elle veut aller plus loin. Il faut découvrir ça, parce que dans le monde moderne, il n'y a plus beaucoup d'induction. Puis, ensuite, la démonstration. Ça, c'est beaucoup plus connu. C'est un raisonnement parfait comme raisonnement. C'est la preuve. La démonstration en matière nécessaire aboutit à une conclusion scientifique. La démonstration en matière opinable aboutit à une opinion. Sans doute cela. Il y a beaucoup de chances que ce soit cela. Alors je pars de prémices. Pour conclure et découvrir les propriétés. Ensuite, il y a un raisonnement très particulier qu'on appelle le raisonnement a posteriori. La démonstration a posteriori, qui est quelque chose de très complexe. C'est pas du tout un raisonnement simple. Et tout raisonnement simple, vous voyez, c'est la montée et la descente. C'est tout à fait normal. Donc, vous avez induction, déduction, analyse, synthèse. C'est pas une vraie synthèse, mais c'est ça. Puisque vous étendez le chemin d'investigation. Donc, troisièmement, le troisième, très difficile à présenter, il y a quelque chose de semblable à l'induction. Je pars de l'expérience, des constatations. Toutes les réalités que je vois sont mues. Ceci est mu, ceci est mu. C'est un fait. Je pars de l'expérience, un fait. Je me sers des principes. Donc là, quelque chose de semblable à la déduction. Mais j'illumine l'expérience par le principe. Et en éclairant l'expérience par le principe, je conclue. Il y a une conclusion. Qui n'est pas la découverte d'une propriété, qui est la découverte d'une cause. D'une cause existante. Donc d'une réalité première. Qui est une source. Mais c'est le sourcier, là. Je découvre les sources. Les sources existantes. Donc oui, entre les deux. seulement très curieux. Alors, qu'en faites-vous? Une démonstration a posteriori. Ce qu'on appelle la démonstration. Logique, c'est de comprendre que de fait il y a ce genre de démonstration. Je reviens à la réalité. Mais quelle est la réalité existante? Mais j'éclaire cette réalité par un principe. Et de là, je recherche la source. Je découvre la source. Voyez, la découverte de l'intellect agent se fait par une démonstration a posteriori. Je découvre une source, l'intellect agent. C'est pour bien vous montrer que ce n'est pas seulement à l'égard de l'être premier. L'intellect agent est source. Donc c'est une réalité première. Est-ce que, à l'égard de toutes les facultés, mes puissances, est-ce que cette démonstration a posteriori? Ce serait intéressant, ça. Voyez, on va essayer de comprendre. Puisque je suis en philosophie du vivant. Bon, je constate par expérience que j'ai la vision. Je vois. Je vous vois. Je me pose la question, voyez, il y a une démonstration a posteriori. Quand on se pose la question, où est la source de ce que je constate? La source de cette vision. Donc j'interroge. Alors, vous voyez qu'il y a deux choses qui sont très proches de l'induction. L'expérience et puis l'interrogation. De l'interrogation que j'avance en démonstration a posteriori. Je me pose la question d'où vient la source. Étant donné que je vois que la vision est un acte original, qui a quelque chose d'unique, d'où ça vient? Je me pose la question d'où ça vient. Alors vous allez me dire, alors c'est une induction. Vous découvrez un principe propre, attention. Ici, on découvre, on fait une analyse. Ici, on ne fait pas une analyse. On interroge pour découvrir d'où vient cette vision. En disant, tout effet limité existant a nécessairement quelque chose qui est antérieur. Une source. Vous voyez ? Je m'éclaire d'un principe. Déficience. Toute opération a un agent. Alors quel est l'agent? La vision. Et je découvre, démonstration, je découvre une source, une puissance vitale. La puissance vitale est bien un principe, mais ce n'est pas le principe dans l'ordre d'analyse. C'est un principe existant. Vous voyez ? C'est pour ça que la démonstration a posteriori est constante. Je crois vraiment qu'en philosophie du vivant, lorsque de fait, j'essaie de découvrir une faculté, ce qu'on appelle une dynamis, une puissance, c'est vraiment une démonstration a posteriori. Je parle de l'expérience, une opération vitale. J'interroge et je découvre. Oui. Donc c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, la démonstration posteriori. Alors on dira, on part des effets pour découvrir la source. J'aime pas beaucoup ça, parce que quand on dit des effets, c'est pour qu'on a déjà découvert que c'est un effet. Je constate une réalité. Existant, limité. Je vois. J'entends. Je touche. 5 expériences originales. Je dis d'où ça vient. D'où ça vient. Ça vient de moi, puisque c'est moi qui vois. Et c'est existentiel. D'où ça vient. Ça vient d'une source. Oui, c'est le sourcier, la démonstration postérieure. Et c'est une démonstration complexe, imparfaite, comparativement aux deux précédentes. Et c'est un mixte qui est imparfait. Pourquoi ? Ce qui va assumer l'existence. Tandis que là où dépasse l'exister, on dépasse l'exister pour saisir un principe propre. Regardez en face une analyse qui va analyser la réalité en voyant ces éléments, en voyant ces principes. Et de l'autre côté, je reste toujours au niveau existentiel, donc au niveau du pose. Je découvre une réalité existante antérieurement. Et c'est assez proche d'une loi. C'est assez proche d'une loi. C'est pas la loi. C'est assez proche. Je vois que telle réalité présuppose une autre. En ce qui est le propre de la loi. Si B existe, A existe. Et il y en a la nécessité. Si la vision existe, il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose d'antérieur à la vision. Parce que la vision est un fruit, n'est pas quelque chose de premier. Et donc je cherche l'antérieur, ce qui est antérieur. Oui, donc c'est assez proche de la loi. Mais ce n'est pas la loi. Pourquoi ce n'est pas la loi? Parce que ce que j'ai découvert est cause propre. Et la différence, c'est justement, c'est que l'interrogation n'est pas la même que pour la loi. Il y a une similitude. Donc la démonstration a posteriori est complexe et elle est proche de la loi. Alors, ensuite, il y a le raisonnement réductif. Qui, lui, part de mon expérience vécue. Pour essayer de trouver l'élément. Mais là encore, c'est très proche d'un raisonnement scientifique. Je vais réduire le complexe au simple. Réduction du tout à sa partie élémentaire. Donc, c'est l'élément que je cherche. L'élément est autre chose que le principe, autre chose que la cause existante. Vous voyez, il y aurait peut-être à préciser, c'est qu'ici, c'est les principes propres. Ici, c'est la cause. C'est la source, c'est la cause. La cause existe. Le principe peut être uniquement dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est pour ça que le principe implique le point de vue de l'analyse. Oui, et très facilement on confond les deux. Quand je découvre la substance, je découvre la substance d'abord et en premier lieu comme principe. Je la découvre ensuite comme cause. Je la découvre d'abord comme principe. Alors parce qu'elle est reliée à une expérience qui implique le champ d'existence, ce principe est cause. Alors, est-ce que pour découvrir la substance comme cause, faut-il une démonstration a posteriori? Vous voyez, ceci est, je vous ai dit, c'est deux opérations très pures, très élémentaires. Élémentaires dans le sens, elles sont complexes, mais elles sont élémentaires dans le sens du raisonnement. Tandis que celle-là est complexe.
Des éléments au niveau physique, est-ce que c'est nécessairement une déduction ou est-ce qu'il y a là quand même une distinction entre démonstration a posteriori et...
Je crois que c'est une démonstration a posteriori.
Alors comment distinguer?
Et alors quelquefois un mélange de réduction. Moderne.
dans toute synthèse. Mais forcément, les éléments sont mis en harmonie différente. Si, voyez, là c'est un peu de critique hein, ce que nous faisons, mais la philosophie du vivant demanderait de constater ça. Réfléchissez, si, pour la question de la biologie, la question de la physique, et la question mathématique. La mathématique, c'est sûrement la science la plus pure. Alors, est-ce que de fait, on retrouve ce mixte dans trois façons différentes? Posez-vous la question. Je crois qu'au plan vitalité de l'intelligence, je trouve ça. Je vois ces aspects-là. Comme je viens d'étudier sous cet aspect-là, je vous le livre. En pâture, n'est-ce pas? Sans des os qui sont excellents. Et qui sont intéressants du reste. Parce que c'est vrai, c'est très actuel ces choses-là, au point de vue de notre raisonnement, oui.
De quelle démonstration procède le jugement des la vision de sagesse.
Oui. Alors, le jugement de sagesse, c'est. Oui, vous avez raison de le citer. Le jugement de sagesse, je ne le traite pas en philosophie du vivant, puisque je ne l'ai pas encore. Mais évidemment, je peux constater que ça existe. Présupposant la découverte de Dieu, il y a un raisonnement nouveau qui apparaît. Mais ça présuppose l'existence, la découverte de l'existence de Dieu. C'est pour ça que je ne le donnais pas. Selon un ordre génétique dans lequel nous nous plaçons, je ne le mets pas en philosophie du vivant.
Mais on voit une grande similitude avec la démonstration a posteriori.
C'est assez proche, oui, c'est assez proche, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que dans le chemin de sagesse, tout est vu à travers la création. L'acte créateur de Dieu. Donc il y a quelque chose de nouveau. C'est la causalité première qui va éclairer ses effets. De sorte que c'est plutôt une application qu'un vrai raisonnement. C'est pour ça qu'on dit jugement de sagesse. C'est le fruit d'une contemplation. Alors, est-ce que c'est encore un raisonnement? Je le mettrais plutôt, vous voyez, dans les espèces différentes de jugement. Parce que ce n'est pas un véritable raisonnement.
Dans la recherche de la substance, de la cause,
philosophie. Et dès que vous précisez quelque chose dans un domaine, immédiatement ça éclaire l'autre. C'est ça l'analogie. Ça s'éclaire mutuellement. Donc, voilà, au point de vue philosophie du vivant, je vois la complexité de ma vie intellectuelle. Et cette complexité provient du fait même qu'il y a abstraction. Parce qu'il y a abstraction, je peux séparer, ou distinguer plus exactement, l'essai de la détermination quantitative. Je peux distinguer, donc je peux distinguer principe et cause. Si je peux distinguer principe et cause, je vois que, en fonction de l'abstraction, et donc du conditionnement de ma vie intellectuelle, il y a une opération propre à saisir un principe, une opération propre à saisir une cause. Et puis ensuite je vois le point de vue de la réduction, qui est le point de vue de la conscience que j'ai de la complexité de ma vie intellectuelle. Et je ne peux pas me contenter de cette complexité, je cherche ce qu'il y a d'élémentaire. Alors vous retrouvez là Foucault, méthode réductive. Toute la pensée moderne est beaucoup spirituel.